Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une émission spéciale que Franck Ferrand nous propose aujourd'hui et je peux vous dire qu'il règne une certaine fébrilité dans le studio Coluche. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. C'est en effet une émission très spéciale, une émission hors série que je vous propose maintenant. Une fois n'est pas coutume, C'est un pan de notre histoire, de l'histoire de cette radio que je vous propose d'explorer cet après-midi. Alors nous qui, chaque jour, avons la chance de pousser les portes de cette maison mythique de la rue François 1er, nous qui œuvrons au quotidien dans des studios qui ont vu passer tant et tant de légendes de la radio, nous vous invitons à venir feuilleter avec nous quelques-unes des plus belles pages de notre album de famille. Et pour cela, nous recevons celui qui, dans les débuts d'Europe numéro 1, puis dans les années 70 et 80, aura été l'animateur le plus emblématique de cette antenne, notre voix de bronze, à l'occasion de la parution de son autobiographie, Pierre Belmar est notre invité. Croyez que cela me remplit de joie.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En France, au milieu des années 50, c'est le règne de la radio. La télévision est encore balbutiante, la presse écrite ne connaît plus les grands tirages qu'elle connaissait du temps de la Belle Époque. Mais dans chaque foyer trône encore imposant le poste de radio, ce poste autour duquel s'articule la vie de famille. Ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis la Libération, la radio française est un monopole d'État. Et bien que ses programmes, les programmes de Paris Inter, soient de qualité, ça c'est incontestable, il suffit de réécouter de temps en temps les grandes émissions de l'époque, il y a dans cette radio d'État un ton convenu, un style compassé qui parfois est un peu ennuyeux. Et tout ça va faire la fortune d'une radio privée, indépendante, émettant depuis les années 30, à partir du Grand-Duché du Luxembourg, c'est Radio Luxembourg, qui à l'époque est associé au Radio Circus. Alors, vous avez bien saisi le paradoxe, le monopole d'État qui interdit l'installation d'émetteurs sur le territoire national, mais qui ne peut pas interdire la fabrication de programmes en France. On appelle ça une radio périphérique. Il y en aura bientôt quelques autres, RMC, Radio Andorra, qui va devenir Sud Radio, et puis bien sûr, Europe numéro 1. Il ne faudrait pas croire pour autant que les pouvoirs publics se désintéressent de ces stations périphériques. Via Havas et la Sofirad, l'État, évidemment, va continuer d'exercer un vrai contrôle sur ces radios. Alors le principe de fonctionnement de Radio Luxembourg est calqué sur un modèle dont on peut dire qu'il est américain, des émissions populaires, souvent des jeux, parrainés par une marque commerciale, lessive, cacao, shampoing, etc. Tout fait ventre. Plusieurs standards de la station sont du reste importés directement des États-Unis. C'est le cas de Quitte ou Double ou de Reine d'un jour. La plupart de ces émissions sont produites par une société privée, filiale d'Havas, les Programmes de France, dirigés par l'un des inventeurs en France de la publicité radio, Louis Merlin. Or, le propre des créateurs comme Louis Merlin, c'est de se remettre en cause et d'aller sans cesse plus loin. Et c'est ce qu'il va faire en 1955, car cette année-là, une nouvelle radio voit le jour. Je dis nouvelle radio, je devrais dire en fait une radio neuve. Elle s'est installée, elle aussi, dans le quartier des Champs-Élysées, rue François 1er, tout près de Radio Luxembourg, un petit peu comme s'il s'agissait de défier la maison installée. Cette radio s'installe dans un immeuble qui abritait un ancien studio de cinéma, où Sacha Guitry, du reste, a tourné. C'est aussi à cette adresse que s'était installée en 1944 la radio des libérateurs, la voix de l'Amérique. Vous avez compris qu'Europe numéro 1, c'est le nom de la radio nouveau-née, sera l'enfant de Louis Merlin, qui entend bien changer la tonalité radiophonique. Son petit manuel du parfait meneur de jeu bouscule tous les codes. Le meneur de jeu de la nouvelle radio, dit Louis Merlin, devra être au speaker traditionnel ce que l'homme est au robot. Le patron des programmes prend donc sciemment le contre-pied de ses propres créations de Radio Luxembourg et de ses émissions courtes ponctuées de ritournelles publicitaires et parrainées par des marques de produits. Sur Europe numéro 1, la publicité se voudra beaucoup plus discrète. On ferait pas mal d'y revenir entre nous. Les priorités sera donnée alors d'une part à la pop musique avec des tranches de 2 heures animées par des meneurs de jeu et à l'information. Autre grande nouveauté, dans les journaux parlés qui sont dirigés par Maurice Siegel, chaque journaliste pourra venir au micro défendre son propre sujet. Il est clair qu'on vise un public plus jeune qui va faire sortir la radio du salon pour l'emmener dans la cuisine, dans la salle de bain et même à l'extérieur grâce à une invention révolutionnaire, le poste à transistor. Voilà le secret. Europe numéro 1, dont la programmation musicale est assurée par le génial Lucien Maurice, se voudra bientôt la radio de la génération transistor. Une autre innovation va galvaniser la rédaction d'Europe numéro 1, c'est le magnétophone portatif, vous savez, ouais. Le fameux Nagra qui permet aux reporters de se rendre partout où se fait l'événement. Disons-le, sans entrer dans tous les détails, dès les premières semaines, le principal actionnaire, Charles Michelson, dont la situation financière est pour le moins fragile, est la cible d'une sorte de cabale dont Europe numéro 1 est tout près de faire les frais. Et finalement, Louis Merlin va faire appel in extremis pour sauver la station naissante à l'homme d'affaires Sylvain Floira, qui est bien vu des pouvoirs publics. Europe numéro 1 est ainsi sauvée, elle va bientôt pouvoir engranger les succès, elle deviendra en quelques années la première radio de France.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec une émission spéciale aujourd'hui, puisque Franck Ferrand reçoit à l'occasion de la sortie de son autobiographie Pierre Bellemare.
Et justement, voilà lancé Europe numéro 1 au printemps 1955. Et c'est très vite que s'impose la voix de ce jeune meneur de jeu. Je dis jeune, il a 26 ans. Et dans son émission « Vous êtes formidable », il met toute son énergie à résoudre des problèmes qui sont autant des problèmes privés que publics. Du reste, ça dépend de ce que l'actualité, de ce que les circonstances amènent et apportent. Bonjour Pierre Bellemare.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être des nôtres. Vous êtes chez vous ici.
Merci.
C'est toujours
Je vais faire une petite rectification dans votre histoire. D'Europe 1. Il faut citer Pierre Delannoy.
Ah oui, oui.
Pierre Delannoy est le premier directeur artistique d'Europe 1. Il était même au-dessus de Lucien Maurice, donc au départ. Voilà. Il s'occupait de l'ensemble
du
domaine artistique de la station.
Que la musique occupait dans le projet d'Europe numéro 1 une place plus que déterminante.
Totalement prépondérante.
C'était au départ presque une radio musicale.
Oui.
Alors, le générique de Vous êtes formidable est devenu légendaire. C'est la marche de l'amour des trois oranges de Prokofiev. Je vous propose de réécouter la toute première de l'émission. C'était le mardi 5 avril 1955, et c'était à 20h.
Formidable, vous êtes formidable. Mes chers amis, vous savez que cet indicatif...
Pardon de couvrir la voix du Pierre Bellemare de 1955 pour laisser la parole à celui de 2011. Pierre Bellemare, d'où venait ce titre « Vous êtes formidable » qui, en soi, est formidable ?
Alors, il faut dire que donc nous avions, nous, démarré en tant qu'hommes de radio sur le concurrent direct, c'est-à-dire Radio Luxembourg.
Eh oui.
Et nous avions fait une émission sur cette radio qui s'appelait « Monsieur B court toujours ». Monsieur B, pourquoi ? Parce que c'était offert par la Pointe Bic, hein, je précise tout de suite
Monsieur
la raison.
Monsieur Bic.
Bon, Monsieur B court toujours. Et que faisait Monsieur B chaque semaine ? Il réalisait une expérience dans une ville un peu folle. Par exemple, il chauffait une ville avec des infrarouges qui étaient à l'époque très nouveaux. Aujourd'hui, nous avons un célèbre restaurant à côté de nous hein, qui ne cesse de chauffer sa terrasse avec des infrarouges. À l'époque, c'était une nouveauté extraordinaire. Donc, il chauffait une rue entièrement et on disait aux gens, allez-y, dites-nous de votre avis, etc. Et donc, toutes les semaines, il faisait quelque chose d'extraordinaire.
D'insolite.
Voilà.
Très
et
insolite.
Donc, on avait eu l'habitude, grâce à cette émission, on avait vu les réactions extraordinaires des gens à l'époque qui sortaient dans la rue, qui allaient voir ce qu'on leur proposait.
Le début de l'interactivité.
Le début complètement de l'interactivité. Donc c'est de là que vient en fait l'idée de créer ensuite pour Europe 1, la création d'Europe 1, une émission qui va encore mieux solliciter l'auditeur et surtout une idée qui paraît d'une évidence totale aujourd'hui, mais c'est la première fois qu'on le fait, c'est-à-dire on va s'adresser par téléphone à l'auditeur, ce que personne n'a pensé à faire jusque-là. Alors qu'aujourd'hui, si vous ouvrez une station de radio, vous commencez à installer un standard.
C'était un peu risqué, pensait-on. On se disait, et si les personnes au téléphone se mettent à raconter n'importe quoi?
Mais il y avait un filtre, il y avait SVP, le fameux standard d'SVP. Et ce qui est amusant, parce que beaucoup l'ignorent, c'est que l'émission est dès l'origine patronnée quand même par un très grand annonceur, qui est donc L'Oréal, hein. Et dans les inventions du patron de L'Oréal, il y a L'Oréal bien sûr, mais il y a SVP, c'est lui l'inventeur d'SVP. Il a aussi inventé les peintures Valentine, etc.
Malheureusement, il a aussi inventé d'autres choses.
Mais enfin, oui, mais on va pas parler de la cagoule. Bon.
Mais en tout cas, c'est Louis Merlin qui a eu l'idée aussi de tourner tout ça vers le social, en quelque sorte. Et de faire non plus seulement de l'insolite, mais de rendre service aux gens. C'est ce que vous avez fait pendant tant d'années. Avec Vous êtes formidable, nous y revenons, Pierre Bellemare, dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, Franck, vous revisitez l'histoire d'Europe 1 en compagnie de l'un de ses animateurs emblématiques, Pierre Bellemare.
Pierre Bellemare qui est avec nous et je suis très fier. Pierre Bellemare qui vient de publier aux éditions Flammarion « Le bonheur est pour demain », c'est son autobiographie avec Jérôme Ecker. C'est toute une plongée dans cette existence foisonnante, extraordinaire. On y découvre beaucoup de choses assez étonnantes. Bien sûr, nous n'aurons aujourd'hui le temps de parler que de radio, Pierre Bellemare, mais il faut dire que dès cette époque, dès 1955, vous animé déjà Télématch à la télévision.
Tout à fait, tout à fait. J'ai commencé en fait comme animateur à la télévision. À partir de 1952, novembre 54, première émission où j'apparais et en même temps c'est mes débuts. Donc je commence non pas à la radio mais je commence à la télévision, ce qui est assez curieux.
Alors c'est Jacques-Antoine qui vous a choisi pour présenter Vous êtes formidable ?
Non, ça se passe pas comme ça. Ça va se passer comme ça finalement, mais je veux dire, on est là à 15 jours de l'émission, bon, Merlin est d'accord, tout le monde est d'accord, et on n'a pas d'animateur. Et c'est à ce moment-là que Jacques me dit « Et si tu le faisais ?» Voilà. « Et si tu le faisais ?» Je dis « Oui, pourquoi pas ?» Bon, mais tu sais, bon, j'ai encore jamais fait de radio, donc parce que, d'accord, je viens de commencer les jeux, mais ça n'a rien à voir, les jeux, vous êtes formidables, c'est très très différent. Voilà, donc, et on se dit bah, « Alors, allez, on y va, hop, youpi, et on est parti. »
Et c'est parti. Et très vite, de grandes causes vont justifier cette émission. Ce qu'il faut dire, et il faut replacer ça toujours dans le contexte, c'est que l'hiver 54, donc l'hiver d'avant, sur Radio Luxembourg, l'abbé Pierre avait lancé fameux grand appel. Et deux ans plus tôt encore, et cette fois sur Paris Inter, le ministre, enfin on disait secrétaire d'État aux Beaux-Arts de l'époque, le ministre de la Culture, André Cornu, avait lancé son célèbre appel pour sauver Versailles, qui avait eu un succès énorme. Donc, il y avait, j'ai envie de dire, l'idée était dans l'air. L'une des grandes causes que vous aurez pris à bras le corps dans cette affaire, c'est la catastrophe de Marcinelle. Il faut peut-être en dire un mot de ça. Ça se passe en Belgique, catastrophe minière terrible.
Considérable, avec plus de 200 morts. Dans un puits qui fait plus de 1000 mètres de profondeur, où les hommes ont trouvé la mort par le feu, tout simplement, un incendie général. Et il faut faire quelque chose. Alors, Louis Merlin nous rappelle, c'est en pleine vacances, car la catastrophe a lieu...
On est en août 56.
Voilà, en pleine vacances. Donc, on nous rappelle, on était sur les plages, hop, on revient tous à Paris, à la demande de Merlin, et on imagine une sorte de collecte, c'est-à-dire on va faire remonter des voitures vers Marcinelle. Alors d'abord, il faut trouver ces voitures. Des volontaires vont donc nous dire, voilà, je mets ma voiture à votre disposition, je remonte avec elle vers Marcinelle. Donc déjà, première chose. Ensuite, on va tracer des parcours de ces voitures et elles s'arrêtent à Place de la Poste, parce qu'il y a une Place de la Poste dans toutes les villes. Bon. Et elles vont remonter en se remplissant. Et ce qui est extraordinaire d'imaginer, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, hein. Bon, il y en a des dizaines. Et ces voitures se remplissent et deviennent
la solidarité
pleines
en marche,
de sous.
En fait.
Hein, oui, mais ce qui était incroyable, c'est qu'il n'y a aucune protection. On n'a jamais pensé à mettre le moindre policier devant. Hein. On a fait confiance aux types qui étaient des volontaires, on ne les connaissait pas. Enfin, c'est un mouvement général absolument magnifique de solidarité qui se déclenche avec aucune sécurité policière. Et il n'y a pas eu besoin, puisque tout s'est très bien passé, que tout est arrivé au bout. Mais aujourd'hui, si j'avais cette même idée avec Jacques-Antoine, je me demande si on oserait faire comme ça. Voyez.
C'est-à-dire qu'il y avait quand même un côté très audacieux. C'était culotté, hein, les programmes de l'époque. Ça, je trouve ça étonnant. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission « Vous êtes formidable » pour vous donner une idée, pour donner à nos auditeurs une idée de la tension qui régnait, de l'incroyable enthousiasme qui vous animait.
Très vite, je repasse l'antenne à Bruxelles, car là-bas, en Belgique, on nous appelle à nouveau. Il y a certainement d'autres coups de fil, vous le pensez bien. À vous, René Duval.
Oui, Pierre Bellemare, il y a plusieurs coups de fil. Nous avons Namur maintenant, Monsieur Starosviecki. Monsieur Starosviecki, 106 rue Saint-Donat, Namur.
106, répétez-moi l'adresse.
106 rue Saint-Donat.
106 rue Saint-Donat, à Namur.
Oui.
Eh bien, je vous remercie. Donc, je m'adresse à monsieur Staroviewski et je demande tout de suite à Roger Couder de choisir un enfant qui se trouve auprès de lui. Attention, à vous, Roger Couder.
Eh bien, j'ai pris encore un petit garçon. Comment t'appelles-tu ?
Alain.
Quel âge as-tu ?
11 ans.
Alors, Alain, numéro 3 pour Namur. À vous, Pierre Belmar.
Et nous allons avoir une reprise d'antenne, on me le signale à l'instant même, à 21h48. Donc je vous demande de reprendre l'antenne, René Duval, à 21h48. Je
c'était sur ce rythme trépidant et dans cet état de tension permanent, Pierre Belmar.
Oui. Avec une chose tout à fait extraordinaire, je reviens à la publicité parce que c'est la seule fois où ça s'est passé. L'homme de L'Oréal, donc...
Schuller.
Monsieur Schuller, s'était rendu compte que l'émission pouvait se terminer très bien ou très mal. Donc il nous avait envoyé un rédacteur, qui était d'ailleurs un historien de droite, mais c'était normal puisque c'était Schuller, mais un historien, qui avait appris à écrire chez les jésuites. Donc il écrivait en caractère d'imprimerie, donc très facile de le lire. Et il réécrivait le message de L'Oréal qui avait lieu à la fin de l'émission, et que je disais à la fin de l'émission, en fonction de l'ambiance de l'émission. Si bien qu'au fur et à mesure de l'émission, il recommençait son texte sans arrêt, jusqu'à me le glisser devant les yeux à la dernière seconde, à la fin de l'émission, et c'était dans le ton général de l'émission.
Quelle adaptation, c'est formidable. Ça.
Mais c'était un homme, Schuller était un extraordinaire homme de radio.
Oui, vraiment. C'était un publicitaire né, au-delà d'être un grand industriel, évidemment. En janvier 1957, j'ai lu ça, donc j'ai découvert ça dans vos mémoires, ça c'est extraordinaire, vous racontez qu'une sorte de philanthrope et de francophile américain, alors que l'image de la France est très dégradée aux États-Unis à la suite de l'opération de Suez, etc., ce francophile fait publier des encarts à ses frais, c'est un milliardaire, à ses frais dans toute la presse américaine pour défendre la France. Mmh. Et on décide à ce moment-là de voler, pas de voler au secours, mais en tout cas de remercier, d'envoyer des cartes postales de remerciement à ce monsieur Abraham Spanel.
Oui, monsieur Spanel, qui a été, faut dire ce qu'il fabriquait, n'est-ce pas ? Parce que quand même, c'est amusant. Il avait fait fortune dans la capote anglaise. Voilà. Faut le dire, parce que c'est...
Ah oui, c'est là-bas, je vous laissais le dire.
Mais c'était un personnage très sympathique et extraordinaire. Donc, on s'en va pour remettre ces cartes postales que tous les Français avaient créées en remerciement à M. Spanel. Et l'idée de Jacques-Antoine, parce que c'est très, très génial, on part avec le facteur de Chavagnac-Lafayette, la patrie même du fameux Lafayette. Donc, bon. Et donc, un personnage extraordinaire qui arrive. Alors, on l'avait habillé de neuf. Il avait une sacoche des postes en cuir, comme on faisait autrefois. Il avait l'uniforme complet. Et le voilà qui débarque à New York. Je me trouvais toujours de ce moment extraordinaire. On visite l'ONU on est dans un ascenseur. Et une dame fonctionnaire française là-bas fait... Mais qu'est-ce que vous faites là, facteur? Sidéré, bon. Et il la regarde, il fait, ben quoi, je fais un petit tour. Un personnage magnifique.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand feuillette l'album de souvenirs d'Europe 1 en compagnie de Pierre Belmar.
Et nos auditeurs sont très, très intéressés. Nous avons énormément de compliments. Je ne vais pas vous les dire tous, Pierre Belmar. Je ne vais pas vous faire rougir. Mais enfin, quelle popularité. Yves nous demande pourquoi le feuilleton « Les tyrans sont parmi nous » n'a jamais été terminé.
Alors, c'est une idée de Jacques-Antoine, tout à fait remarquable. C'est une histoire qui se passait tous les jours, bien entendu, c'est un feuilleton, mais qui tenait compte des 24 heures qui séparent chaque feuilleton, et donc l'histoire était en fait sur 24 heures. Bon. Je ne vais pas vous raconter tout le sujet, et ça marchait très très bien, mais à un moment donné, il y a eu des réactions politiques par rapport à cette émission, et on nous a imposé de l'arrêter. Et donc ça s'est arrêté.
Donc là, une influence d'ordre politique.
Voilà, une influence d'ordre politique.
Bon, on a connu la même chose après mai 68. Vous avez fait partie, vous d'ailleurs, des victimes, si je puis dire, de la remise en place d'une certaine bien-pensance d'après mai 68.
Ah ben, nous étions tous renvoyés. Personnes qui avaient participé aux événements de 68 étaient à l'eau. Bon, c'est très simple.
Alors avant ça, juste, on va résumer ça, bien entendu. Mais il se trouve qu'en 1959, le 2 décembre d'ailleurs, c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 2 décembre 1959, a lieu la rupture de ce fameux barrage de Malpasset au-dessus de Fréjus dans le Var. Et là, vous avez à choisir entre une soirée de solidarité à la télévision et une soirée de solidarité sur Europe 1. Et vous choisissez la télévision ?
Ah non, je ne choisis pas. Tous les jeudis, j'étais à la télévision. Et donc, comme la catastrophe a lieu dans la nuit du mercredi au jeudi, c'est Albert Olivier qui m'appelle. Le premier, le matin, j'étais d'ailleurs pas du tout au courant, j'avais dormi tout bêtement, je ne savais pas. Et il me dit, voilà, il faut faire ça ce soir, etc., etc. Et je suis à la télévision tous les jeudis, donc je réponds positivement à Albert Olivier. Et évidemment, derrière arrive Europe qui me dit, on va faire, vous êtes sans... Je dis, oui, mais je peux pas, parce que Albert Olivier... Enfin, et ça a déjà été très mal pris. Mais en fait... Où l'erreur arrive et elle est grave, c'est que pendant l'émission,
la soirée,
brusquement, l'un des reporters qui est au standard dit, on nous parle de gens qui réclameraient de l'argent, etc., dans les rues. Et je
vous craignez la malhonnêteté,
voilà,
en fait.
Je crains la malhonnêteté. Je dis, non, ne donnez pas à des gens comme ça, etc. Ils peuvent profiter de ce moment. Et en fait, c'était les petits scouts, je ne sais plus, d'Europe 1 qui étaient dans la rue. Bon, donc là, ça devient l'horreur.
Malentendu.
Pas bien.
Et on s'est fâchés pour 10 ans. Voilà.
10 ans. Donc vous quittez Europe 1 en 59 et vous y revenez en 1960. 69,
absolument.
Avec une émission restée mythique, Déjeuner chaud.
Absolument. Alors là, c'est merveilleux parce que c'est Lucien Maurice qui nous contacte à nouveau, qui était assez à l'origine du départ. Hein, bon, et qui me contacte. Alors on arrive avec Jacques-Antoine et il nous dit, voilà, j'ai trouvé un titre formidable, ça s'appelait Déjeuner chaud. Alors on dit oui, c'est bien.
Chaud comme un spectacle en anglais.
Comme un spectacle, absolument. Et on dit oui, et alors ? Eh bien, maintenant, il faut faire une émission. Alors on a...
C'est-à-dire qu'il y avait un titre, c'est tout.
Il y avait le titre, un très bon titre, mais c'est tout. Bon. Et après ça, on est parti pour un long moment. Et là, c'est la première fois que ça se produisait à cette horaire-là. Et là, on est passé devant notre petit camarade de la Radio Luxembourg.
C'est le moment où Europe 1 devient la première radio de France. Alors vous occupez-vous ce créneau de la fin de la matinée, de l'heure du déjeuner. Il y a le journal d'André Arnault au milieu, bien entendu.
Bien sûr.
Ensuite, vous racontez des histoires.
Plus tard, ça ne commence pas tout de suite.
À partir de 60.
Bah, c'est-à-dire que Maurice Siegel veut me remercier avec Jacques-Antoine et nous convoque un jour et nous dit, bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et on lui dit, voilà, un jour, on avait fait il y a très très longtemps sur Radio Luxembourg, d'ailleurs, un truc qui s'appelait Histoire vraie. Et on nous en parle encore. Donc, comme c'est très rare qu'on parle très longtemps après la fin d'une émission, on pense que c'est un bon principe. Et il nous dit, ben écoutez, il y a une tranche qui existe, c'est un truc...
C'est la pente.
C'est après le journal, mais 13h30, 14h, mais c'est pas terrible. Nous, on n'a jamais réussi à la faire marcher. On vous la donne et on est parti. Voilà.
Et c'est grâce à vous que nous avons un public maintenant. Merci Pierre Bellemare et merci à Jacques-Antoine là-dessus. Alors, vous racontiez ces histoires. Vous êtes là, je signale pour les auditeurs, ils sont, je pense, plus que très majoritaires, oui. qui n'auraient pas Internet. Vous êtes avec vos bretelles dans le studio, comme toujours, bien entendu.
Oui, c'est votre
marque de fabrique, si je puis dire. Vous preniez ces histoires.
C'est ici que j'ai...
Alors voilà, c'est ça.
On m'a conseillé de mettre des bretelles. Hein? J'avais toujours une ceinture avant, ça me gênait toujours. Et j'étais toujours avec des problèmes de ceinture. Et c'est un des réalisateurs d'Europe qui m'a dit, tu vas rue François, pas rue François, non, rue Marignan, qui est à côté, et tu vas voir, il y a un vendeur de bretelles extraordinaire et tu seras beaucoup plus confortable. Et de ce jour-là, j'ai acheté des bretelles.
Alors, nous avons un grand nombre d'émissions mythiques à évoquer maintenant. Votre compagnie, Pierre Bellemare, on se retrouve dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et aujourd'hui, Europe 1 est à l'honneur sur Europe 1, puisque Franck Ferrand, vous recevez Pierre Bellemare. Mais oui.
On aurait parlé d'RTL, ça poserait plus de problèmes.
Je pense.
Pierre Bellemare et Jérôme Ecker, Le Bonheur est pour demain, c'est l'autobiographie de Monsieur Bellemare, cette voix de bronze de la radio, mais aussi de la télévision. Vous parlez de tout, bien sûr, de vos origines, de votre famille, toute votre enfance, la guerre, la Normandie, votre passion pour la mer et pour les beaux bateaux, bien entendu. Nous nous concentrons aujourd'hui sur la radio. J'aimerais qu'on écoute, pour le plaisir, ça va tous nous ramener quelques années en arrière, quelques minutes de cette émission phare, de cette espèce de mythe radiophonique qui a été le Cisco.
Le Cisco. Bonjour à tous. Le Cisco avec Jean-Paul Roulant, Jacques Roulant, Harold Kay. Le Cisco, nous avons la joie de vous annoncer que vers 12h35,
notre président, M. Floirat, viendra...
Les frères Roulant, je recevais Jean-Paul Roulant il y a quelques temps, c'était pour le 1er avril dernier, nous le saluons très chaleureusement, évidemment Jean-Marc Epinou, Harold Kay, enfin c'est l'équipe Belmar, vraiment. Et puis il y avait aux manettes un certain réalisateur, Jean-Marie Pantalacci, pour presque toujours. Il est avec nous aujourd'hui, je suis heureux de vous faire cette petite surprise, Pierre Belmar. Bonjour Jean-Marie Pantalacci, qui est en train d'entrer dans le studio.
Notre corse belge.
Venez vous
installer à côté de Fatima. Et il a été bien sûr l'un de vos fidèles.
Bonjour Panta.
Je crois que le terme de fidélité s'impose quand on parle de Pierre Belmar.
Oui.
C'était une équipe, Jean-Marie Pantalacci.
Ah, c'était une équipe, oui, formidable. Oui, oui.
Qui prenait l'antenne à la fin de la matinée et qui la lâchait plus. Si
qui la lâchait. Ah, ben, on terminait à 14h. Ouais. Parce qu'il y avait les jeux. Ensuite, le journal d'André Arnault, dont je m'occupais aussi. Et puis après, les histoires de Pierre.
Une vraie décontraction dans tout ça. Hein. On parle aujourd'hui beaucoup de la bande à Ruki. On peut dire qu'il y avait quelque part la bande à Belmar. On sentait que tout ce monde-là était dans une atmosphère d'amitié, de sympathie. J'ai eu la chance, moi, Pierre Belmar, il faut le dire, car certains s'étonneraient que je ne le dise pas, de collaborer. J'ai eu la chance de travailler avec vous pendant 3 ans. Et le souvenir, parmi de nombreux souvenirs que j'en garde, le sentiment que j'en garde, c'est celui d'un très grand, d'un interminable fou rire. On s'amusait beaucoup dans cette équipe. Je le regrette souvent. On ne sait pas rire en travaillant, nous. C'est dommage. Et je me rappelle notamment des conférences de rédaction du lundi. On sortait, ça se trouvait dans un ancien jeu de paume à côté de Monceau, du parc Monceau.
Oui, oui.
On sortait de ces réunions avec vraiment mal aux joues à force de rire.
C'était... Bah oui, c'était une bonne ambiance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a toujours essayé de travailler comme ça. Oui. Et aujourd'hui, alors on est voisins parce qu'il est périgourdin comme moi. Et bon, voilà. Alors, donc, on se voit maintenant là-bas, au loin, à la campagne.
Vous dites dans votre autobiographie que vous avez toujours envié Harold Kay. Il faut saluer Harold Kay, qui nous disait toujours sur ma montre « Say quoi quartz, il est à l'heure bon. ». Harold Kay, qui parlait toutes les langues, dites-vous.
Oui, ah ben, il était écossais, donc évidemment il parlait parfaitement l'anglais. Et surtout, ça lui a donné l'occasion de faire des choses extraordinaires. Il a fait 2 fois le tour du monde avec le France.
Et oui.
Et ça passer le détroit de Magellan, vous voyez, que j'ai toujours rêvé de passer... À bord de France, ça devait quand même être quelque chose d'impressionnant. Parce que déjà, le Détroit, c'est quelque chose d'impressionnant. Mais en plus, avec cet énorme navire, franchir ce lieu mythique, j'avoue que j'en rêvais. Mais pour ça, il fallait être multilingue, il fallait faire de l'animation à bord de cet énorme bateau. Et ça, j'étais bien incapable.
Votre succès a été tel sur Europe 1 que le propriétaire de la maison, Jean-Luc Lagardère, à l'époque, vous a proposé d'en devenir le directeur général adjoint. Vous dites que ça, c'est peut-être pas la meilleure décision que vous ayez prise. L'acceptation.
C'est même la plus mauvaise. Oui. J'étais très fier. Est très heureux, bien entendu, qu'on me propose cela. Mais en fait, j'étais pas du tout fait pour ce métier. Et donc, 3 mois après, je retourne voir Jean-Luc et je lui dis, excusez-moi, mais je suis pas fait pour ça, je m'en vais. Et il m'a dit, non, attendez, on va rester 1 an parce que sans ça, on va être ridicule. Donc voilà comment ça s'est passé.
Jean-Marie Pantalacci, 17 ans de Pierre Belmar à l'antenne, ininterrompue à l'antenne
17
d'Europe
1. 17 ans plus une 18e. J'ai reculé mon départ à la retraite pour retravailler avec Pierre qui revenait nous dire des histoires à Europe.
Vous aviez, comme nous aujourd'hui avec cette équipe merveilleuse qui est la mienne, vous aviez beaucoup de complicité, j'imagine tout ça se faisait
oui, bien sûr,
au clin d'œil.
C'est indispensable. Alors évidemment, pour que cette bonne humeur et cette complicité soient naturelles, il fallait que tout soit verrouillé avant. Donc c'était très organisé, ce qui nous permettait permettait aux animateurs de pouvoir se lâcher quand il fallait, sans enfreindre les règles du jeu, des jeux, etc.
L'équipe dont je parle me fait signe qu'on va bientôt devoir se dire au revoir. Alors j'aimerais le faire en musique grâce à une des chansons du CD qui accompagne votre livre, en tout cas pour les 40 000 premiers exemplaires, Pierre Belmar.
Oui.
Et puis qu'on peut trouver évidemment par ailleurs dans les packs, comme on dit, 12 chansons que vous avez choisies. Et celle-là s'appelle, ça tombe bien, Bye Bye.
Un soir, c'est la fin du voyage. On a passé le pont tremblant. Et voici qu'autour du visage... Les cheveux gris deviennent blancs. On sait quand vient cette seconde, combien l'orgueil était trompeur, et qu'il n'est rien qui vaille au monde. Un peu d'amour et de bonheur, le pauvre cœur par élégance veut encore un instant crâner. Mais il faut dire à l'existence, bye bye.
non pas adieu mais au revoir, c'est le moment de nous quitter. Pierre Bellemare, merci beaucoup d'être venu de nous parler de notre maison, de nous parler de cette Europe, Europe 1 qu'on aime tant. Pierre Bellemare avec Jérôme Ecker, Le Bonheur est pour demain, c'est votre autobiographie publiée chez Flammarion. Et merci à Pampan, à Jean-Marie Pantalacci d'être passé
nous faire
un petit bonjour. Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour Elena Morna.
Alors, nous allons quitter cet univers de conteurs pour...
Mais de jeux aussi, on a parlé de jeux.
Pour aller dans un autre, puisque nous allons jouer ensemble tout au long de cette heure et demie avec les experts Europe 1. Je suis sûre que vous y trouverez votre plaisir. Quel jeu vidéo pour son enfant, pour ses parents, pour ses grands-parents? Vous savez qu'aujourd'hui, on amène les jeux vidéo dans les maisons de retraite parce que c'est formidable. On vous dira pourquoi et on attend, comme chaque jour, vos questions au 3921. C'est toujours 34 centimes d'euros la minute.
Merci beaucoup, Elena. Bon week-end.
Et merci, Franck.
Bientôt,
je
ne
me trompe pas cette fois-ci en vous souhaitant à vous aussi un bon week-end. Restez à l'écoute d'Europe 1.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.